Salut à tous, bienvenue sur Niptech, Niptech 326, nous sommes le lundi 12 juin. Ouais, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas fait Niptech que je ne sais même plus le jour. Ça fait pas 326 émissions, je crois qu'on ne faisait pas tout le temps le lundi, tout au début. Mais bref, Niptech 326, on parle de tech, de start-up, d'inspiration, vous le savez, et on est deux avec moi, Syde, S-Y-D-E. Comment vas-tu?
Très bien, très bien. Mon nom est presque venu Syde, S-Y-D-E, tu vois, force de te faire répéter pour que les gens savent comment on l'écrit S-Y-D-E. Voilà, moi c'est Mike, bien sûr. Et je suis très content d'être là. C'est vrai que ça fait 3 semaines qu'on s'est pas vu. Bien sûr, tu as triché parce que vu que j'ai posté un Niptech Inspire, d'ailleurs, merci à tout le monde pour le feedback que vous m'avez donné. C'était le premier un peu où je vais commencer à interviewer des gens qui m'inspirent pour vous, essayer de vous inspirer également. Pas mal de gens m'ont donné du feedback, ça faisait plaisir. Et donc, tu as utilisé cette excuse pour pas qu'on fasse l'émission la semaine dernière. Mais en tout cas, je suis très content d'être là. Oui. Plein de news tech sympa. Et puisqu'on est à raconter des histoires, est-ce que tu veux savoir d'où vient, tu le sais toi, mais je vais faire comme si tu le savais pas. Tu veux savoir d'où vient le mot side?
Ah bah oui, volontiers alors.
Bien sûr, tu le sais. C'est que quand j'avais 14-15 ans, je mixais de la musique plutôt hip-hop et plutôt après de l'électronique, mais plutôt hip-hop. Et c'est vrai que c'était mon nom, DJ, S-Y-D-E. Donc ça m'est toujours resté parce que ça a été mon handle pendant des années et des années depuis que j'ai 14 ans et maintenant j'en ai 40, donc je vous laisse faire le calcul. Voilà, donc S-Y-D-E, ça vient de là.
Ah, c'est beau, c'est beau. Moi, je dois dire, effectivement, alors on n'a pas fait la semaine passée parce que je suis dans une période très intense, il y a beaucoup, beaucoup de très chouettes projets, donc voilà, j'avais juste trop. Et puis, comme on s'est dit, il faut se faire plaisir, on est là, il faut vouloir donner, il faut, voilà, pas avoir la tête ailleurs. Donc, on s'est dit, on remet d'une semaine, mais quand même, je dois vraiment envoyer un grand merci à un auditeur qui s'appelle Benoît Lafontaine, qui m'a invité à Uzi Events. Uzi, c'est cette énormissime, fameusissime conférence, inspiration. Enfin, c'est vraiment tech startup inspiration. Je pense que ça leur collerait bien aussi. Donc, du coup, je me suis dit, écoute, voilà, des moments, il faut savoir respirer. Donc, j'ai pris 2 jours. Je vais aller à Paris le 19-20. Si vous y êtes aussi, ça sera un grand plaisir. On pourra s'y rencontrer. Et je me réjouis vraiment parce que ça sera l'occasion d'écouter plein de gens inspirants comme ça sur 2 jours. D'un coup, de faire une sorte, tu sais, de se rafraîchir les neurones et puis de prendre un peu de hauteur. Oui. Donc, c'est vraiment cool.
USI, donc USI Events, si vous tapez au USI Conférence 2017. Personnellement, je ne la connaissais pas, mais c'est vrai que quand j'ai vu les gens qui y parlaient, je me suis dit au vol, 19 et 20, ce qui est pas mal aussi, c'est peut-être pas que des gens de la tech, parce que des fois, on a envie de se gargariser tech, et puis finalement, on regarde son propre nombril. Donc, j'aime bien l'idée de voir des personnages différents pour apprendre quelque chose de différent. Donc, je me réjouis de ton feedback sur l'event.
Ouais, ça va être excellent. Et puis, au passage, parce qu'on parle d'events, il y a Marco, ton compère, enfin ex-compère avec Nip Sales n'est plus, mais lui, il est au Swiss AI Day le 14, donc ça fait dans 2 jours si vous écoutez, il a même un billet, il a dit s'il y a des gens intéressés, si vous écoutez quand on met en ligne et que vous voulez aller au Swiss AI Day, vous tapez Swiss AI Day, vous trouverez, vous pouvez nous envoyer tout de suite un tweet et puis on vous balance un billet pour aller à Berne. Hein, capitale de la Confédération. Donc voilà, on fait les capitales, on fait Paris, on fait Berne.
Et c'est en anglais ou en allemand ou en français?
Ah, c'est en anglais.
Ah, en anglais, Suisse. AI. Et puis AI, on ne va pas vous faire AI, intelligence artificielle ou artificial intelligence en anglais. Vous allez comprendre. Donc, c'est cool de le voir un peu plus rentrer dans la tech. En tout cas, c'est toujours plaisir de pouvoir le soutenir, notre trésor Marco. J'aime bien. Est-ce qu'il va parler, lui? Il va faire quelque chose dans cette event ou...
Non, je crois qu'il est juste là. Il tire un peu les fruits de la NipConf. Hein. D'un coup, tu sais t'organiser des trucs. Les gens voient que tu sais amener des gens intelligents ensemble. Et ils te demandent de les aider à le faire. Donc, je crois que c'est ça. Alors, c'est intéressant. Bref, en tout cas, allez, assez parlé d'events. À moins que tu aies encore un truc à dire là-dessus.
Non, je rappelais juste aux gens de dire, si vous voulez un billet gratuit ou deux, parce qu'on pourra toujours quémander à Marco plus de billets, vous allez vous taper at Niptech Podcast et vous demander, j'aimerais bien un billet pour la Suisse AI Day, et vous mettez comment c'est déjà quoi son Twitter handle, tu vois, je sais jamais. Vous mettez Niptech Podcast et puis on vous trouvera et puis on le forwardera à très cher Marco. C'est sympa.
Ouais, à fond. On parle de AI. C'est vrai qu'on a dans nos listes, on a disons, à toute une série de sujets dont on veut parler. On n'arrive pas forcément à en parler pendant les émissions. Et là, il y en a un qu'on a laissé parce qu'il est tellement bien, mais en même temps, il est un petit peu compliqué. Et on sait que quand on parle de ce genre de sujet, on a tendance à dire un peu n'importe quoi. Donc voilà, c'est le petit warning avant qu'on commence à en parler. Mais c'est tout ce qui est l'interface entre les ordinateurs et le cerveau. Alors, c'est un truc assez nouveau, hein, mais pas tant que ça. Vous savez, moi, alors, j'ai travaillé chez Google. On a un côté petite nostalgie. Ça fait bientôt ou beaucoup d'années. Et à l'époque, déjà, les gars disaient, leur but, en fait, ça serait que tu n'aies pas besoin de taper sur ton ordinateur ta requête. C'est-à-dire qu'ils nous expliquaient, quand ils te font les trainings, ils te disent « Allez, on est les meilleurs, etc. » Ils disaient « Le but, c'est l'utilisateur, il arrive, il ouvre, à l'époque, il n'y avait même pas Chrome, donc il ouvre son browser préféré, et puis, tu as déjà des suggestions, parce que tu sais où il est, tu sais son état d'esprit, tu sais ce qu'il écoutait, puis paf, tu as déjà des suggestions, et puis idéalement, tu as déjà répondu à la question qu'il a avant même qu'il ait ouvert son browser. » Donc, tu vois, le truc un peu creepy, vraiment, qui fait peur, quoi, vraiment l'intrusion extrême dans ta tête. Alors ça, c'est l'intrusion un petit peu par ton environnement, mais on peut aller un pas plus loin, parce que quitte à faire ça, pourquoi pas carrément avoir l'intrusion dans ton cerveau. Alors je dis intrusion, d'autres diront joyeuse connexion. C'était le projet de Neuralink de notre copain Elon Musk, donc Neuralink, Neuralink, qui est vraiment cette idée aussi d'être directement connecté dans le cerveau. Mais ce qu'il y avait d'intéressant, c'est que dernièrement, Facebook a aussi également lancé dans ce type d'interface. Alors maintenant, on le voit principalement pour les personnes handicapées, vous l'avez sûrement vu, qui peuvent écrire, qui peuvent faire des actions simples, avec ce type d'outils. Mais l'idée, ça serait qu'on puisse aller beaucoup plus loin et puis carrément l'utiliser comme interface. C'est la nouvelle souris. Je trouve ça assez barge. Et puis, il n'y a pas que les hallucinés du logiciel, les Google et Facebook. Il y a aussi des gens dans le hardware et ARM est en train de préparer des puces. Alors là, c'est pour tout ce qui est plutôt les blessures. Mais enfin, on voit que vraiment, on avance là-dedans. C'est un sujet qui montre... Ouais, tu sais, la prochaine révolution, elle sera encore plus hallucinante que ce qu'on est en train de vivre, quoi.
C'est clair, on répète encore toujours l'évolution. Tu avais le gros PC, la chambre avec le PC dans les années 70. Tu as eu le personal computer via Microsoft. Tu as eu le portable. Tu as eu maintenant le mobile. Maintenant, tu as l'AR. Et ça sera le prochain, c'est-à-dire la voix. Je pense, et le cerveau. Moi, vous connaissez tous, vous me connaissez, vous avez, et si vous n'avez pas encore vu le film Johnny Mnemonic, vous savez que j'en ai parlé, mais depuis l'épisode 01, où moi, je serais heureux de pouvoir me mettre un chip dans le cerveau, bien que le cerveau, c'est quand même, il faut quand même faire attention, je pense. J'attendrai un petit moment avant que le produit ne soit pas en bêta testing, avant de le faire.
Voilà. C'est la preuve que tu es vieux.
C'est la preuve que je suis vieux, exactement. Moi, je voyais, tu vois, ma génération, ils n'ont pas, même comme toi, il y en a certains qui ont des tatous, mais ils ne sont pas tatoués de partout. Et bien peut-être, là, nos enfants, ils n'auront pas des tatous partout, mais ils se feront mettre des implants dans le cerveau pour pouvoir hacker et aller plus rapidement. Moi, je trouve très bien, d'un sens, pour dire aussi, pour gérer tous les handicaps de certaines personnes. Et ça, si on peut faire quelque chose pour gérer ça, pour leur donner une vie bien meilleure, ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Moi, ma question, tu connais The Brain Project à l'EPFL. L'EPFL, c'est la grosse université qui est en Suisse. Est-ce que tu as entendu de The Brain Project certaines choses sortir de là qui ont transformé en start-up dans le monde de la Silicon Valley?
Alors non, c'est intéressant, pas encore. Donc, le Human Brain Project, c'est un des flagship de la recherche européenne, est alors entre autres basé sur l'EPFL, mais pas que, et eux, ils veulent en fait simuler le cerveau, parce qu'évidemment, la question, c'est de se dire, ils prennent les trucs de deux axes. Ils disent, d'un côté, est-ce qu'on arrive à simuler extrêmement bien un tout petit tas de neurones, mais vraiment extrêmement bien? Et puis, d'un autre côté, ils se disent, est-ce qu'on arrive à simuler, pas très en détail, mais globalement, des milliards de connexions? Et puis après, tu essayes d'attaquer le problème des deux angles, très très bien localement, ou plutôt bien, mais à grande échelle. Et puis, tu te dis, à un moment, ça va se marier, puis on va arriver à faire des trucs incroyables. C'est extrêmement contesté comme façon de faire. J'ai aucune idée si c'est une bonne idée ou pas. Moi, je trouve ça assez hallucinant, que j'aime bien. J'aime bien le concept et l'essai. Par contre, j'ai encore rien vu qui pouvait être utilisable directement, ou des gens qui se réclamaient de cette filiation-là.
Mais c'est 10 à 15 ans le projet, hein, et c'est plusieurs milliards d'euros. Ouais, donc on parle. Souvent, c'est cette recherche fondamentale. Hein, on dit toujours, ouais, ils ont mis des hommes sur la Lune, ça a servi à rien. Et finalement, c'est toute cette recherche fondamentale qui a permis de créer l'Internet derrière tout ça, hein, DARPA et compagnie. Hein, c'est toute cette recherche-là. Donc moi, j'approuve et j'applaudis déjà qu'on n'est pas toujours en train de funder la dernière start-up et la prochaine app, mais qu'on funde aussi des choses plus, à plus long terme. Et c'est vrai que, voilà, on pouvait critiquer la NASA et tout ça, mais ça permet de donner de l'argent à des projets à beaucoup plus long terme. C'est comme aller sur Mars, ce que j'adore parce que ça pousse les limites de la technologie. Et ça, moi j'aime bien. Je dois dire, si c'est pour vendre de la pub, tu vois, parce que tu expliquais Google avant, tu disais oui, alors tu vas ouvrir ta machine et automatiquement ils suggéreront quoi ? Mais ils suggéreront des choses pour vendre de la publicité ou vendre des produits. Et ça, c'est peut-être moins sympa quand tu commences à hacker, quand tu laisses une personne te vendant de la pub hacker ton cerveau. On est déjà bien assez accro à notre mobile sans laisser ça. Donc là, je pense qu'il faudra quand même mettre des garde-fous. Et même si l'implant est gratuit, il faudra s'en méfier.
Ouais, mais ce que je trouve intéressant, c'est que, effectivement, toi, la dernière colonne de Walt Mossberg, hein, qui est ce gars qu'on aime énormément, qui a écrit, je crois qu'il a écrit dans The Verge, celle-là, il parlait du disappearing computer. Donc, il dit, ma carrière, lui, il a eu 40 ans. Enfin, toi, nous, on suit la tech depuis quelques années. Lui, il suit depuis que ça prenait vraiment une pièce, toi, d'avoir un ordinateur. Eh bien, il dit, voilà, on va vers le disappearing computer. Donc, on ne va plus voir l'interface. Et c'est intéressant de voir dans quel sens ça va, parce que nous, ce qu'on a connu jusqu'à maintenant, c'était cette espèce de vision de dire, parce qu'on va savoir où tu es, on va t'avoir un truc en poche, donc on va pouvoir te faire des choses où tu n'as plus besoin d'avoir d'interface, parce qu'on va savoir par tes gestes finalement. Mais là, aller à l'intérieur, c'est vrai que c'est autre chose. Et puis ça va avec une autre trend que je vois vraiment de plus en plus sortir, on en parle depuis longtemps, mais là qui sort vraiment fort, c'est les ordinateurs quantiques. Quand on regarde les dernières, c'est assez fou, tu sais, c'est le genre de truc où tu dis, mon Dieu, bientôt, on va plus pouvoir parler de tech parce que ça devient tellement fou. Mm-hmm. Les termes, toi, il faut connaître le cerveau. Le quantum computing, par exemple, un des objectifs d'un des derniers modèles, enfin, des derniers ordinateurs qu'ils ont fait, c'est que, toi, l'ordinateur, il soit capable d'analyser toutes les transactions financières du monde en temps réel, en même temps. Donc, c'est fini de regarder un truc. C'est vraiment cette espèce, toi, de machine learning ultime où tu observes tout. Et tu dis... Toi, pour nous, t'es là, t'es waouh. Ouais, effectivement, c'est pas juste une amélioration de ce qu'on fait maintenant. Tu sens que t'es dépassé. Donc ça, ce genre de choses, c'est intéressant. Après, évidemment, là, de nouveau, il faudra des gens qui nous disent, ouais, mais attends, calme-toi, où ça va exactement. Mais en tout cas, ça vient. Et ça, ça va être un autre truc que je me réjouis vraiment de voir arriver. Alors, je pense pas qu'on fera un podcast sur un ordinateur quantique prochainement, mais ça va quand même être sympa.
Ouais, moi j'aime bien ces nouvelles données. Et il semble que la technologie permettant, après, ça permet de faire des bons. Parce qu'on disait toujours, ouais, on est limité. Puis maintenant, on commence à avoir une puissance de calcul qui nous permet d'analyser notre big data, qui nous permet de faire des... Ils n'aiment pas le mot AI, Google. Comment ils appellent ça, déjà, un mot bien spécial?
Bon, ils ont machine learning.
Ils adorent ce mot parce qu'ils disent AI, ça ne veut rien dire. Ils ont peut-être raison. Mais c'est vrai que ces bons en avant, ils viennent souvent du hardware. Parce qu'avant, on avait beaucoup de données. Et je crois qu'il y avait beaucoup de boîtes qui avaient ces données, mais il n'y avait pas la puissance de les analyser. Et c'est vrai qu'avec ce quantum computing, plus de Human Brain Project, plus ce que Elon Musk désire faire, en tout cas, moi, je suis heureux de l'avenir. Alors, il y en a certaines personnes qui vont voir le verre à moitié vide. Moi, je pense que je vois plutôt le verre à moitié plein et je suis content de vivre dans un siècle pareil.
Ouais. Ah, maintenant, je vais vous montrer comment on reconnaît un Apple hater. c'est facile. Parce que maintenant, je vais poser une question. Et Mike, mais qu'est-ce qu'ils ont annoncé Apple à leur dernière conférence? Alors, parle-nous un petit peu de...
Tu sais ce qui me fait rire.
Qu'on parle, parce que oui, le futur est brillant, mais le truc qu'il y a, c'est toujours la même chose. Ce qui me fait rire, c'est qu'on parle de trucs complètement fous, et puis en même temps, on parle de sociétés qui ont de la peine à se réinventer. Et souvent, on pointe un petit peu Apple du doigt en disant, ils ont réinventé des nouvelles façons de vivre, de consommer, de vivre avec nos données. Et puis maintenant, ils n'y arrivent plus. Quand on voit, moi, si tu veux, je n'ai même pas suivi. Toi, je sais que tu l'as fait, donc je suis très content que tu m'en parles. mais j'ai même pas suivi leur WWDC parce que je m'attends, si tu veux, c'est cool, c'est l'incrémental et c'est bien l'incrémental, il le faut, t'es obligé de l'avoir, mais c'est pas ce qui m'intéresse dans ce monde là mais peut-être que tu vas me prouver qu'il y a des choses plus intéressantes que ça et que finalement je suis mauvaise langue. Alors vas-y.
Ben, ce qui est marrant, c'est que à l'époque je me serais tapé les 2 heures de WWDC et puis j'aurais écouté avec attention ce qu'il disait, comment il le disait, avec quels mots il le disait. Mais ça, c'est quand il y avait Steve Jobs. Maintenant qu'il n'est plus là, bah, en fait, tu fais « What happened in WWDC hein, ?» la conférence de développeurs Apple. Et puis, tu as The Verge qui te propose une vidéo d'une minute avec toutes les images possibles et inimaginables. Tu la regardes 2 fois et tu te dis « Ah, c'est ça !» Et après, tu te poses des questions. C'est marrant, mais c'est un peu ça. Moi, je trouve quand même intéressant hein, de certaines choses qu'ils ont annoncées. Alors, on va passer vite sur certaines, hein, genre WatchOS 4, alors Next. Moi, j'en ai une, elle pourrit là, toujours je ne l'ai plus jamais remis au poignet. Peut-être un jour, quand la batterie sera vraiment, vraiment bien, je m'en rachèterai une. Mais pour l'instant, je me suis fait avoir une fois, pas deux. Donc oui, il y a plein de features assez incroyables, de choses incroyables pour payer avec Apple Pay dans WatchOS. Mais vous savez quoi? Il faut déjà être d'accord de recharger sa montre chaque jour, ce que je ne suis pas prêt à faire. macOS High Sierra, bah, alors moi, franchement, je n'ai pas vraiment regardé ce qu'il y avait de tellement nouveau, à part le nom, hein, High Sierra. Toi, t'es auquel macOS, toi?
Je crois que je suis plus ou moins à jour. Sierra, voilà. Donc, il n'est pas encore high, mais ça va venir.
Une chose qui m'a plus intéressé, je dois dire vraiment plus, c'est quand même le iOS 11, donc qui va bientôt sortir. Comme d'hab, ils le sortent en Developer Edition. Et puis, pour vraiment les geeks dans votre vous pouvez toujours vous ruer. Moi, je vous laisse débugger et puis après, je le prends quand il fonctionne bien. Alors là, une chose incroyable, c'est que c'est vrai qu'ils nous permettent maintenant d'avoir, tu sais, mais t'as un Android, toi. C'est ça.
Ouais, moi j'ai mon bon vieux Samsung qui me va très très bien. Ouais.
Alors ils ont unifié maintenant toutes les notifications parce que si on slide down dans OS X actuellement, on a 2 notifications qui servent à rien, un avec la date et puis l'autre avec le reste. Et ils les ont unifiées aussi. Une chose, c'est que avec le menu du bas, on peut vraiment vraiment faire beaucoup plus de choses. C'est-à-dire avant, on devait aller dans le menu du bas, mais après on devait aller dans les settings et on peut régler beaucoup plus de choses directement dans ce sous-menu, ce qui est une bonne chose. Après il semble avoir vraiment travaillé pour essayer de faire des changements qui seront plutôt cool. J'arrive pas à vous les dire tous qu'il y aura, mais voilà, ça c'était les 2 changements qui étaient sortis pour moi. Un autre truc, au lieu d'avoir un iPad Pro gros, ils ont fait une sorte de iPad Pro mini. Il semble vouloir vraiment pousser cette catégorie. Est-ce que tu as envie d'acheter un iPad, toi, ou une tablette, quel que soit?
Alors ouais, moi j'ai vraiment une utilisation unique de mon iPad ou de ma tablette, c'est que c'est le super format idéal pour faire timer dans les conférences.
Ah oui, ah, okay.
C'est juste assez grand. Puis en même temps, l'ordinateur, toi, tu ne sais pas le poser, c'est compliqué. Donc, je suis prêt. Donc, j'utilise toujours mon bon vieil iPad 1 pour faire timer dans les conférences et je l'adore pour ça. Mais juste pour ça. Pour le reste, je m'en fous absolument.
Bah, je croyais que moi, en tout cas, mon iPad, j'en ai 2. Hein. J'ai un mini et puis un ancien iPad 2. Je pourrais les utiliser, tu sais, comme plateau pour apporter le café ou pour apporter des choses à bouffer à table. Ça serait pas mal. Mais en fait, moi, je ne vois pas vraiment l'intérêt. Alors, c'est vrai, des gens disent « Oui, mais il y a un intérêt si on veut faire du design. » Mais rien que la gestion de fichiers qui prétendent simplifier, là, alors, je n'ai pas testé moi-même, mais ils prétendent l'avoir simplifié dans iOS 11, mais c'est une telle merde que moi, personnellement, je n'ai pas envie de gérer la gestion de fichiers là par ça. Il faut passer par iCloud ou par Dropbox, par machin, c'est vraiment horrible. Donc, pour moi, pour l'instant, je ne trouve pas que c'est une valeur ajoutée. Et finalement, on finit toujours par typer. Moi, je dis « J'ai une phablette », comme on s'appelait ça à l'époque, et un PC enfin, ou un portable, et ça me va très bien. Une chose qui est sortie, ils vont sortir le iMac Pro, mais le vrai Pro, hein, pas le portable, l'iMac Pro, et celui-là, il va coûter, je crois, 4 900 $ ou 4 500 $. Donc, c'est vraiment le gros écran, hein, vraiment pour faire de la vidéo, du 4K vidéo editing et des choses comme ça. Ça sert vraiment, sans déconner, il est vraiment beau, quoi. Et puis, mais moi, j'en ai pas vraiment bien besoin. J'ai vu qu'il changeait certaines choses sur le Mac MacBook Pro et le...
Tu sais combien il est, le si tu prends toutes les options?
Non.
Tout, tu vois vraiment, tu le bourres à mort, tout ce que tu peux, 17 000 $.
Ouais. Mais en même temps, tu te dis, quelqu'un qui fait vidéo, l'édition vidéo, souvent, c'est ça que ça lui coûte. Hein. Donc, je dirais, voilà, c'est peut-être pas faux. 17 000 $ si tu travailles pour un grand studio et puis que tu fais de la 4K, 17 000 $ c'est ton outil de travail.
Non, écoute, sincèrement, c'est toujours le même truc. Si tu, comme tu dis, si, faut faire, si tu utilises, quand tu comptes que le temps que tu gagnes, parce que la vidéo, c'est brutal. Hein, là, une des raisons pour laquelle on ne fait pas de podcast vidéo, c'est que si c'était juste mettre une bonne caméra et puis passer 5 minutes à éditer, on le ferait. Mais le truc, c'est que la vidéo, tu as le temps de prendre ton iPad, d'aller amener des cafés à tout l'immeuble et puis revenir. Hein, donc,
et c'est ça qui est difficile avec la vidéo. Hein. Pour ça qu'on utilise YouTube vidéo et peut-être que ce n'est pas idéal non plus pour avoir des clics sur nos vidéos. D'ailleurs, on nous avait dit, si vous voulez avoir des clics, n'utilisez pas du YouTube Live, uploadez la vidéo via YouTube, ça marche mieux que faire du YouTube Live, ça c'est clair. Mais ils savent la qualité. Et dernière chose donc, que je n'ai pas compris, j'ai vu qu'ils baissaient le prix du Mac Mini, pas du Mac Mini, qu'est-ce que je raconte, du MacBook Pro et du, c'est un MacBook Mini ou comment il s'appelle,
c'est toi le Pro, moi je ne sais pas ça.
Non, le MacBook Air, qu'est-ce que je dis, ils baissent le prix du MacBook Air et du MacBook Pro. Ce que je n'ai pas compris, c'est est-ce qu'il l'upgradait ? Et ça, c'est vraiment une question que j'ai. Donc, si vous pouvez y répondre, répondez-y sur Twitter, SYDE, parce qu'une chose, c'est que j'ai vraiment besoin de changer mon MacBook, mon portable. C'est vrai que j'avais fait un test, vous vous souvenez, sur Surface, qui n'était pas du tout concluant. Je pense, pour faire de la vidéo et de l'audio, Apple reste les meilleurs. Donc, j'ai eu une excuse pour peut-être me racheter un nouveau portable et j'en suis content.
J'adore, tu sais, je tape, parce que tu en parles, donc je tape en même temps MacBook Pro. Et le premier article qui sort, c'est « How to disable the MacBook Pro Touch Bar ». Enlever les fonctions de la MacBook Pro Touch Bar. Je crois que ça dit… Ça
tu
dit
en as un, toi, non
besoin de savoir, mais... Non, j'ai pas voulu, non. Okay.
Et la dernière, je sais que tu es un Apple hater.
Ah, vas-y, un truc intéressant.
Aimer. Alors, pour $349, je crois, ou $399, je ne suis pas sûr, ils ont créé...
Tu as un nouveau câble, un nouveau connecteur entre ton téléphone et ton ordinateur.
Non, mieux que ça, ils ont créé, et ça... quelque chose qui s'appelle HomePod. Et c'est quoi ? C'est en fait un haut-parleur avec Siri intégré. Mais quand j'ai entendu, parce que je l'ai entendu Tim Cook parler sur Bloomberg et je l'ai écouté, il disait quoi ? Il disait, mais ce n'est pas un haut-parleur comme les autres. Parce que quand nous, on fait des choses à Apple, on n'est pas peut-être les premiers, mais ce qu'on fait, c'est incroyable. Donc, il m'a quand même envie de donner de l'écouter, ce HomePod. Je dois dire, les Beats qu'ils ont achetés, la qualité, moi, je ne suis pas convaincu du son, personnellement, de Beats, à part que c'est un effet de mode. Mais le HomePod, je pense qu'Apple a quand même dû se donner de la peine pour le speaker. Et ils disent qu'ils ont aussi intégré Siri à l'intérieur. Donc voilà, moi, c'est vrai que le Amazon Echo, le mini là, que je vais me racheter, il coûte 59 €. Celui-là, il coûtera 349, mais ça sera vraiment de la qualité. On verra ce que ça donne. En tout cas, ça sort en décembre aux États-Unis, au UK et je ne sais plus où, et au Canada, je crois.
Bon, écoute, intéressant. Sincèrement, c'est vrai que, bon, allez... C'est pas mal, mais il n'y a pas de choses qui me font tomber de la chaise. Moi, je vais te dire un truc qui me fait tomber de la chaise, carrément.
Vas-y.
Que j'adore, au sens propre, parce que tu n'as pas le choix. C'est les maisons robotiques. Tu vas dire, ouais, mais on connaît les maisons robotiques, c'est la domotique, on fait 50 ans qu'on en parle. Non, c'est pas de la domotique. Non, les maisons, les vraies maisons robotiques, c'est-à-dire, mettons que tu vis à Tokyo, tu as un petit appart, ou à New York, ou à Paris, tu as un petit appart parce que c'est cher. Qu'est-ce que tu fais ? Tu t'organises tant bien que mal. Mais imagine que ta maison puisse se reconfigurer à volonté selon les moments de la journée. Donc, tu arrives, tu la mets en position dodo, t'as un lit, t'as de l'espace, après elle est en configuration bureau, t'as de l'espace, etc. Ça, tu veux bien le faire, mais tu dis, attends, si je dois tout déplacer, ça va pas. Eh bien non, la maison, elle peut maintenant le faire elle-même. Il y a plusieurs trucs. Alors, si vous aimez ce genre de délire, là, c'est le MIT qui a fait un apartment in a box, donc l'appartement dans une boîte, ce qui est toujours le cas d'un appartement, mais bon, on comprend ce qu'ils veulent dire. Pour 10 000 $, donc c'est un peu, il faut voir, c'est le début, c'est un peu un kit IKEA qui te permet de faire ces différentes configurations. Mais ce qu'il y a de super intéressant, c'est que ces choses-là, finalement, ça vient d'autres choses. Finalement, les meubles peuvent être configurables, je crois que j'en avais déjà parlé. Si vous cherchez comme mot-clé, c'est aussi tout ce qui est origami robotics. Donc, c'est ces robots qui, d'un coup, peuvent prendre des formes différentes selon, mais se configurent vraiment de manière extrêmement libre, super intéressant. Moi, il y a un truc qui me parle parce que je suis pas forcément... j'aime l'espace. J'aime pas avoir... Chez moi, tu rajoutes un tableau, ouais, ça va. Tu rajoutes un tableau, une chaise, je commence à me sentir un petit peu, toi, un petit peu étouffé. Donc, j'adore ce concept et j'étais curieux de voir si ça parlait à d'autres ou si c'était, voilà, s'ils allaient vendre qu'une boîte le jour où j'aurais 10 000 dollars de côté.
Bon, je pense que ça parle beaucoup à des gens qui ont des très petits apparts pour avoir été à Tokyo cette année. Voilà, les gens, ils vivent dans 26 mètres carrés, voire plus petits. Donc, pour eux, c'est extrêmement important d'avoir ces mini-appartements. Moi, ça me fait penser un peu à l'appartement. Je cherchais le nom du film. Tu te souviens du cinquième élément ?
Oui, ouais, bien sûr.
Le film, le cinquième élément, quand Bruce Willis est dans son appart, et il y a les keufs qui viennent taper à sa porte et tout d'un coup, tout se remonte un peu comme ça. Ça me fait penser à ça. Ça me fait penser à le lit, tout d'un coup, il se remonte, tout se remonte et tu vis dans un mini appartement tout robotisé. Honnêtement, je trouve ça cool parce que quand on voit l'utilisation qu'on fait de l'espace actuellement, voilà, je trouve pas qu'on l'utilise incroyable. Une chose, c'est que je me dis, est-ce que c'est vraiment de la robotique ? Parce que est-ce que c'est vraiment quelque chose de robotisé ou c'est juste des mouvements de meubles différents ? Ah, il y a Yves Béard en plus qui est le designer.
Ah, j'allais voir si t'es arrivé dessus, quoi. Oui, voilà, Yves Béard, pour ceux qui connaissent pas, c'est le designer star de la Silicon Valley, un des, mais enfin, peut-être même le. Et donc, effectivement, le fait qu'ils mettent un petit peu son nom dessus, c'est intéressant. C'est...
Non, et alors, il est star, raison. Il est surtout suisse roman. Voilà, on va le dire. Yves Béard est suisse roman, donc c'est plus que ça. C'est pas juste qu'il est une star, c'est que c'est une star suisse du design. Il faut savoir, en Suisse, on est assez connu dans le design parce que, on a des bonnes écoles, je crois, et le Suisse, il y a des bonnes écoles du design. Donc, ça fait plaisir déjà qu'un des pontes du design de la Silicon Valley soit suisse, déjà. Soyons un peu chauvin, même si Wawrinka a perdu.
Oui, c'est vrai, mais enfin, c'est pas... Oui, c'est vrai. Mais il y en a plein de bons, tu vois, Stark et la café, le... Enfin, voilà, c'est... L'Europe, en général, c'est le design, tu vois, c'est tout ça. Si tu veux, Ikea, l'Italie, enfin, c'est tout par là. Ça, c'est un des trucs que les États-Unis n'ont pas apporté à la planète, c'est le design, ça, c'est sûr.
Et d'ailleurs, quand tu vas aux États-Unis, le design, même pour les habits, ils sont pas très connus. Est-ce que c'est parce qu'ils s'habillent pas très bien ? Je sais pas. Je vous laisserai vous-même juger, mais voilà.
Reviens à la robotique.
Allez.
Non, mais c'est vrai que ce truc-là, pour le moment, tu as raison. En gros, ce que c'est juste un peu une façon maligne de faire bouger tes meubles de manière mécanique. Et moi, je pense qu'on va aller plus loin. Ce que je disais avant par rapport à ces meubles qui vont s'adapter, c'est-à-dire que toi, tu te mets à table, et bien la table, elle va se mettre à ta hauteur. Tes gamins, ils se mettent à table, elle va se bouger à leur hauteur.
Ouais,
mais toi, tout ça, ça va être autonome. Tu ne vas pas avoir un bouton, blabla.
D'accord.
C'est là où ça devient de la robotique.
Où tu rentres, au lieu d'ouvrir ton armoire, elle s'ouvre pour toi. Voilà. Et elle te choisit exactement ta chemise et elle fait ding-ling sur les deux chemises que tu voulais mettre parce que justement, ils sont pluggés à ton téléphone et ils ont vu que tu aimais les chemises blanches et ils te proposent une cravate qui va avec. Ça serait bien.
Et vu que Google a fait son boulot de savoir, ils ont même commandé pour toi et payé pour toi des nouvelles chemises sans que tu aies rien demandé. Donc,
mais tu sais quoi ? Fait mieux. Ils te l'ont envoyé gratuitement. Et si tu n'es pas content, tu peux renvoyer ça gratuitement aussi, mais ils te les ont envoyés en sachant pourquoi que tu avais envie de cela. Et voilà. Et ils font le pari comme quoi tu les achèteras parce qu'elles sont si incroyables.
Ou là, tu viens de donner une idée de start-up qui est juste tellement bien.
Bon, ça s'appelle des subscription services et ça se parle beaucoup énormément dans le retail actuellement. C'est vrai que finalement, Amazon commence à être le mieux placé pour faire quelque chose comme ça. C'est-à-dire après avoir analysé son consommateur, savoir ce qu'il pense, savoir comment il se prend en vidéo, savoir ce qu'il dit, on lui enverra avant même de savoir ce qu'il veut et on lui dira si tu retournes ce que tu veux pas.
Ah, c'est malin.
Toi,
c'est
t'aimes malin. Ça ?
Bon, et vas-y. Je détesterais ça.
Pourquoi ?
Je déteste parce que je consomme peu finalement. J'achète très peu souvent, donc voilà. Du coup, quand on voit les trucs que j'ai pas demandé, non, ça serait pas bienvenu, quoi.
Alors j'ai commencé à lire un peu les stoïques et toute cette philosophie, et c'est vrai que maintenant, au lieu d'acheter, ce que je fais, c'est que je note j'ai un Evernote et je note le truc et j'attends une semaine ou deux pour voir si c'est vraiment bien. Mais c'est vrai que c'est difficile des fois parce que si ça coûte 50 balles ou autre, on se rue vite pour rien. Et c'est vrai que des fois, il vaut mieux faire une petite pause avant d'acheter.
Parce qu'on a pas mal de news là, puis là, on va tranquille, on sent qu'on approche de l'été. Allez, une nouvelle qui t'a plu, dont t'as envie de parler dans l'équipe.
Alors, c'est marrant parce que j'écoutais quelque chose qui s'appelait Chicago Cabbies says industry is towards collapse. Alors, pour avoir été plusieurs fois à Chicago, la ville, ils sont en train de dire que le monde des taxis est en train de s'écrouler. Mais quand je dis s'écrouler, c'est qu'il y a, allez, je crois, il y a 6 ans, la valeur d'une licence de taxi valait 350 000 ou allez, 350 000 $ et maintenant elle en vaut 10 fois moins, 35 000 $ et encore. Et il y a une augmentation massive. Voilà. Alors à quoi c'est dû, bien sûr, Lyft, Uber et tout ça et toutes les lois qui changent pas. Puis ça m'a fait rire de lire ça et en même temps de voir une news comme quoi Uber a des sacrés soucis entre guillemets. Ils pensent même Uber de virer leur CEO et founder Travis Kalanick et c'est vraiment en discussion. Alors ils n'ont pas encore dit s'ils allaient le faire ou pas. Ce qu'ils disent, c'est qu'ils prendraient un leave of absence. Je vous laisse imaginer ce que c'est. C'est-à-dire ils se barreraient pendant un temps indéterminé, mais après ils reviendraient avec un rôle non encore déterminé. Enfin, on voit qu'il y a ça se couvre méchamment hein, chez Uber. On a vu qu'il y a eu des problèmes. Moi, ce que je leur dis, c'est bravo de vouloir faire quelque chose, mais je crois qu'ils n'ont vraiment pas le choix. Parce qu'ils ont une telle pression, je pense aussi de l'État, qu'ils ont intérêt à faire des choses parce que sinon leur business s'écroulera. Donc il a fallu vraiment des extrêmes de manière de faire pour qu'ils commencent à prendre des décisions. Mais Uber, autant l'industrie du taxi est mal lotie, mais autant dire que Uber est vraiment face à des challenges assez gigantissimes en ce moment. Moi, ce que je pense...
Mais écoute, je sais pas si on a déjà parlé dans l'émission. Moi, les dernières courses que j'ai fait avec Uber, tu sais, au début, j'avais les personnes, les chauffeurs, alors c'était les meilleurs taxis qui disaient « je veux être plus libre, offrir un meilleur service, donc je vais faire Uber, je vais faire mon propre truc ». Maintenant, les gars que j'ai, c'est les gars qui sont fait virer des compagnies de taxi, en gros, qui sont tellement mauvais que Uber, ils demandent rien, donc ils le font. Tu vois, typiquement, il y a des personnes, ils te laissent pas monter devant. Ils ont des trucs devant, ils ont leur sandwich, et puis ils disent « file derrière », tu vois, puis t'es là, ok quoi, super.
Et ça, donc, c'est le cas pour la Suisse ou les autres pays?
Alors là, dernièrement, les derniers cas que j'ai pris, c'était toujours en Suisse.
Moi, je dois dire, en Suisse, pays, je suis plutôt satisfait, je dois dire. J'ai trouvé que c'était bien jusqu'à maintenant. J'ai toujours été plutôt... Il y a Uber Pop, qui est les amateurs, Uber X, qui est un peu les pros, mais ça va. Mais moi, je suis vraiment déçu dans les autres pays. Je dois dire, dans les autres pays, là, j'étais où encore? Je me souviens plus trop. J'étais à Athènes. Et à Athènes, je me suis dit, je prends un Uber. Et c'est vrai que j'ai pris un Uber pour aller. Et là, c'était vraiment super. J'ai dû attendre un tout petit peu, mais le gars, il parlait parfaitement l'anglais. Puis il était monstre cool. Et puis il nous a expliqué tout sur Athènes. Vraiment super expérience. Puis après, je me suis dit, on reprend Uber pour retourner à l'aéroport. Et là, ça s'est vraiment mal passé. C'était 8 minutes d'attente. Tout d'un coup, 14 minutes d'attente, 15 minutes d'attente. Et c'est vrai que tout ça ne donne pas envie de prendre Uber tout le temps. Alors, qu'est-ce que j'ai fait dans ce cas-là?
T'as pris un taxi.
Exact. Et j'ai attendu même pas une minute. Donc, des fois, il faut avoir foi en Uber pour le prendre. Mais c'est juste pour dire que gros souci. Moi, je pense que c'est des fois un problème de virer son founder parce que je pense que oui, il a des gens, il a peut-être pas fait tout juste, c'est vrai, mais il a le mérite d'avoir changé une industrie qui était sacrément pourrie. Donc
est-ce que tu as besoin, toi, c'est toujours la même chose. Est-ce que tu as besoin de garder, tu as des stages pour tout, même pour les fondateurs. On sait que les fondateurs ne sont pas toujours les meilleurs pour faire l'opérationnel. Après, lui, il a un caractère de cochon, il faut le dire. C'est pas un gars, t'as même pas envie de l'inviter à boire un café, tu sais. Et du coup, il a fait son rôle, il a détruit de manière créative ou constructrice ou ce qu'on veut, on peut mettre derrière. Une industrie, il l'a digitalisée, il a fait son temps. Maintenant, il faut qu'il y ait un adulte responsable, comme on dit, qui vienne prendre les rênes.
Et là, c'est là que je dois dire Google, Larry Page et Sergey d'avoir pris des CEO comme Eric Schmidt qui sont venus et maintenant Sundar. Ouais. Ils ont vraiment réussi à s'entourer de gens et de faire pour lequel ils étaient forts et de laisser d'autres manager en tant que CEO. Mais je pense que là aussi, c'est l'ego qui parle. Et là, ils avaient moins d'ego que les autres en voyant que ils savaient moins bien le faire et donc ils laissaient la place aux autres. Ouais. C'était peut-être le côté qui venait plus du monde universitaire qui leur a permis peut-être d'avoir cette mentalité-là à Google. Mais je dois dire...
T'as raison, parce que c'est vrai que Larry Page, il a dit non, moi je veux être, il a toujours dit moi je veux être CEO, moi je suis fait pour être CEO. Il a fait quoi? Il a fait 3 ans, il était tellement stressé qu'il a perdu l'usage de la voix pendant genre 6 mois au début. Et c'était un truc, ouais, bien sûr, c'était d'avant, mais enfin, c'était beaucoup de stress. Et puis après, je pense qu'il s'est dit, mais attends, finalement, les milliards, t'en profites mieux quand tu travailles pas 85 heures par semaine. Donc voilà quoi.
Bon, ça marche aussi quand t'as une boîte comme Google. Mais les valeurs et la manière de faire, tout ça, c'est quand même grâce à eux. Donc je dois dire,
oui. Voilà. Oui, absolument. Alors.
Je sais pas, je trouve toujours que c'est vrai que oui, d'innover, oui, de casser les règles, mais pas à n'importe quel prix. Ça a appris aux Américains que maintenant, tu vas devoir respecter les règles. Et je vois bien qu'ils vont devoir, ça va être beaucoup plus dur de disrupter une industrie parce que les gens sont préparés à ça. Donc, ils vont venir et puis essayer vraiment de mettre des bâtons dans les roues quand il y aura conflit.
Ouais. Ouais, intéressant. En tout cas, on verra. Ça va sortir. Ben, normalement, au moment où vous écoutez ce podcast, ça sera en train de sortir si vous l'écoutez tout de suite après sa parution. Donc, le mardi 13. Et puis, c'est peut-être la fin d'un chapitre. Mais moi, je suis vraiment positif par rapport à ces changements. Bravo à eux d'avoir enfin pris le taureau par les cornes. Et puis, d'avoir pris des décisions. Même si on ne sait pas encore ce qu'elles sont, c'est déjà bien d'en avoir pris. Bon. Est-ce que tu as lu ? J'ai pas lu le rapport, juste parce qu'on parle de digitalisation. Il y a la Bible annuelle. C'est le rapport de Mary Meekers qui vient de sortir. Et bourré de chiffres. Enfin, c'est un truc génialissime. Hein. Donc, en général, là, comme j'ai pas eu le temps, ça vaut la peine de le lire un petit peu dans le calme. Toi, tu l'as lu ?
Non seulement je l'ai lu, mais je l'ai écouté en podcast parce que il y avait la Code Conference, la Recode Conference, et elle parle comme ça. Bah alors j'écoute le podcast en 1.5, hein, elle parlait pendant 30 minutes ou 40 minutes, je crois. Donc 1.5, c'est 50% plus rapide. Donc vous voyez que ça allait très vite. Et c'est elle-même qui expliquait les différents trends. Donc c'est Mary Meeker, elle fait partie d'une boîte de VC.
Kleiner Perkins,
un des plus vieux VC des États-Unis. Hein. Ils étaient à la Silicon Valley avant même que ça s'appelle la Silicon Valley, je crois. Et voilà. Qu'est-ce que j'ai pu voir comme chose ? Que les paiements sont en train d'exploser, que le web continue sa croissance, même si il a cru de 10%, alors que l'année dernière, il a cru aussi de 10%. L'Inde est en train d'exploser. Hein, je veux dire, voilà, c'est vraiment quelque chose
bien, qui... Enfin,
voilà. La voix est vraiment quelque chose, non seulement qui est en train d'exploser, mais qui fonctionne. Ils sont à moins de 80 et quelques pourcents, presque 90% de hockey. Non, comment tu dis quand la voix
de reconnaissance.
Ouais. Donc ils sont vraiment, on est tout proche de faire les choses bien. La Chine, ça explose comme d'habitude. Au niveau retail, beaucoup de modifications. Ils disent les paiements, bien sûr, qui est le mobile. Ils parlent vraiment du AR en disant donc augmented reality, mais ça rien de nouveau. Vous le savez parce que vous écoutez Deep Tech tout le temps. En expliquant les nouveautés que Google a montrées ou les choses comme ça qui permettent vraiment au AR de commencer à faire sa place. Voilà. Il donne des exemples de retail qui font bien les choses dans la souscription, dans les différentes choses, dans la manière de faire. Il y a vraiment beaucoup, il y a tellement que c'est dur à se rappeler. Mais ce que je mettrais deux choses. Je mettrais le rapport lui-même que j'avais tweeté et je mettrais sa discussion, son explication à la Code Conference que je vous dis écoutez aussi, c'est aussi sympa à écouter.
Ok, ouais, c'est intéressant. C'est vrai qu'elle parle de tout. Hein. Elle parle vraiment de la croissance immobile, comme tu l'as dit, des ad blockers, ça passe. C'est vrai que si tu veux te faire un petit refresh rapide de tout ce qui se passe dans tous les domaines à suivre, ça vaut vraiment la peine. Et puis bon, c'est quelques pages, hein, c'est 355 pages de slides. Alors, ce n'est pas des pages, ça se lit bien, on va dire. Il y a beaucoup de chiffres, mais les chiffres, c'est quand même 355 pages.
Tu sais comment je fais pour passer pour un baron ?
Tu te le fais lire pendant la nuit, comme ça tu te souviens le matin.
Non.
Et tu sais tout par cœur.
Ce que je fais, c'est que je l'envoie à mes clients, en fait. Je leur dis, voilà, moi, j'ai trouvé ce rapport qui vient de sortir. Voilà les deux, trois trucs intéressants sur telle page. Puis voilà. Et franchement, les gens aiment bien. Et je commence à utiliser LinkedIn pour ça. Parce que je me suis dit, mais au lieu d'essayer tu vois, avant, je leur envoyais des mails. Et puis, je me disais, ouais, bon, ils ne vont pas forcément lire et tout. Donc, maintenant, j'utilise plutôt LinkedIn quand je vois des trucs cool dans le monde du retail ou qui ont plus lieu au travail, je les poste. Et c'est vrai que j'étais étonné de voir les views. Donc, je vous dis, là, j'avais, par exemple, j'ai eu quoi ? J'ai posté ça et j'ai eu 3 likes. Ce n'est pas beaucoup, hein, vous direz. Mais 481 views du post.
Ah ouais, d'accord, pas mal, oui.
Pas mal. Donc, tu utilises un peu LinkedIn pour poster ce genre de choses ?
J'utilise beaucoup à titre professionnel parce que je regarde qui bouge dans l'industrie, va d'un endroit à l'autre, etc. Il y a beaucoup de gens qui postent des news intéressantes. Oui. Sincèrement, c'est là où j'ai les news qui me plaisent. Ceux qui ne postent pas des news intéressantes, je dégage, donc c'est facile. C'est vrai que c'est clairement l'endroit où je m'informe le plus. Mais j'utilise pas les groupes SA, j'utilise le mur bêtement, quoi. T'as raison, hein. Étonnamment. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui détestent et tout, mais ça me plaît.
Ah bah c'est cool. Moi, je vais commencer à un peu plus l'utiliser. Alors, vous me direz, ouais, vraiment.
Ah d'ailleurs, attends, je viens de voir un truc. Le Smart Jacket and VR Headset let you pilot a drone with your body. Donc ça, c'est en fait le Fly Jacket. Donc c'est-à-dire que t'as des capteurs tout le long. Et figurez-vous, alors je vais le dire en avant-première. En fait, j'aide les PFL dont on a parlé avant à... Ils vont organiser des journées de drones, 1er ou 3 septembre.
Cool.
Alors, c'est encore un peu secret parce qu'ils vont dire que la semaine prochaine. Donc, on est dans la confidence entre nous. c'est donc 1er ou 3 septembre. Et un des stands qu'on aura, c'est une expo, donc on va montrer du hardware et ça. Mais un des stands qu'on aura, c'est ce Fly Jacket.
Oh, j'adore.
Tu viendras. Évidemment, si tu veux, tu vois encore que c'est de la recherche. Ce qui est intéressant... Quand tu rentres dans ce genre de truc, c'est qu'il faut te dire, c'est le niveau zéro, toi. C'est pré-industrialisation à mort, mais de voir le potentiel. Le potentiel est assez incroyable. Donc, je me réjouis de t'y voir. Et puis, on aura d'autres trucs cool. On aura les robots qui ont des formes d'oiseaux. On aura des trucs qui peuvent taper contre les murs, qui sont tout petits, un peu en
flyability,
en caoutchouc. Ouais, mais d'autres types de flyability. Donc, en gros, le message, ça sera, tu sais, c'est comme si maintenant, avec les drones, les gens, ils voient une Ford T et puis ils sont là, ah waouh, c'est la fin de l'automobile. C'est la Ford T, elle a tout résolu. Alors, oui, c'est un énorme changement, c'est clair. Mais faut pas croire que ça va rester avec la même gueule toute la vie, quoi. Donc voilà. Et donc c'est marrant. C'était sur LinkedIn, toi. Maintenant que tu m'as dit d'y aller, comme quoi c'est vraiment c'est un bon endroit pour trouver.
Comme quoi utiliser LinkedIn. Ils le disent depuis longtemps, mais maintenant je commence. Des fois je suis pas autant et je suis étonné. Des fois je suis un early adopter. Autant des fois pour ce genre de truc, je mets des fois trop de temps. Je sais pas pourquoi, mais voilà. Jusqu'à qu'il y ait la masse qui soit là et après je commence à l'utiliser. Peut-être c'est parce que je suis trop un Twitter addict. On va dire ça comme ça.
Puis là tout le monde s'en fout que tu utilises ou pas, c'est ça qui est beau. Toi Twitter, t'as cette espèce d'impression que tu dois quand même de temps en temps utiliser ou qu'il faut répondre, mais là tout le monde j'aime bien l'esprit, ouais. Bref, en tout cas, mais tu parlais de quoi en fait, pourquoi on est arrivé là-dessus? Ah oui, tu parlais de notre copine Mary Meekers, là, voilà.
Oui, Mary Meekers. Alors je mettrai les deux et puis franchement allez jeter un coup d'œil. Tout bon geek qui se respecte doit au moins écouter ou voir ce qui se passe, parce que là vous allez passer vous allez tout savoir ce que vous saviez déjà. C'est un bon test pour savoir si on savait déjà. J'aime bien des fois. Mais en tout cas, les graphiques sont parlants. Si vous voulez aller voir intelligent à votre prochaine présentation.
On appelle ça travailler les fondamentaux, Mike. Et Dieu sait si c'est vraiment une des bases de NipTech. Donc, j'aime. Bon, il faut quand même qu'on parle un peu des Ask NipTech. Vous savez que si vous voulez nous poser des questions, vous allez sur le bon vieux Twitter, hashtag Ask NipTech en un mot. Tac, ça nous vient directement. J'en reçois un email même, je sais plus qu'est-ce que j'ai utilisé, IFTTT je pense, un truc comme ça. Bref, en tout cas, on reçoit un email et on prend les plus intéressants, les plus sympas, on les sélectionne quelques-uns. Et qu'est-ce qu'on a eu ces trois dernières semaines, Mike?
Alors, on avait Kojo, K-O-D-G-O, Cyber Freak, qui nous suit depuis très longtemps.
Hein. Cyber Kick.
Freak, tu vois, je vois Freak, Kick, je dis Freak. Bah non, mais il nous suit depuis pas mal de temps, et puis c'est vrai qu'il nous pose toujours des trucs, et il nous dit une petite question. Europeans Most Innovative Universities, les universités les plus innovatives d'Europe, avec un petit lien Reuters, n'en veut pas. Et voilà, alors je vais te les lire, et tu me dis si t'es étonné ou pas, ok?
Vas-y.
2017, ouais. Top Ranking University, alors, 1, KU Leuven, en Belgique. Connais pas?
Louvain-la-Neuve, c'est clair.
Louvain. Ouais. Mais tu sais, c'était déjà
beaucoup
bien.
De sciences de la vie aussi.
Exactement.
Ouais.
Et j'avais le père d'un ami qui avait fait son... là-bas, à Louvain, c'est une monstre université. Hein. Imperial College de Londres, oui.
Ouais, un classique. Ouais.
Université de Cambridge.
Ouais, bon, ça c'est ça, mais ça je sais pas vraiment ce qu'ils font, je dois dire. C'est marrant, hein.
Technical University of Munich.
Ouais.
Et Federal Polytechnic School of Lausanne. Ah, numéro 5.
Yes. Joli, ouais.
Université Nuremberg, je vais pas tous les citer, hein. Voilà, tu connais?
Non, je connaissais pas.
Pierre-Marie Curie University, Paris 6.
Ouais, c'est clair.
Ouais. Delft University of Technology, Netherlands.
Oui, j'y étais il y a pas plus tard qu'il y a un mois.
Et pour le best but not last, le numéro 9, University of Zurich, c'est l'EPFZ. Voilà. Ah non, après, tu as le Swiss Federal Institute of Technology. Après, tu as l'EPFZ. Donc, moi, je suis très chauvin, vu que Wawrinka a perdu. On a trois universités suisses dans le top 11. Je suis assez content. C'est un bon classement.
Ouais, c'est bien. Non, et puis il y a encore l'autre classement mondial où les deux EPF sont sortis en 10 et 12e au niveau mondial, ouais. Hein, cette fois. C'est intéressant. Moi, je trouve toujours c'est pas que je vois de l'intérieur, mais j'ai la chance de pouvoir collaborer un petit peu plus, d'avoir des contacts. On sait toujours que c'est dur d'être dans les meilleurs, mais c'est vraiment dur. Nom de bleu, les gars, J'ai de plus en plus de respect. C'est vrai que la recherche, des fois, on sait pas trop. On se dit, les gars, mais toi, qu'est-ce qu'ils foutent? Mais en gros, c'est vrai que je vois. Et maintenant que j'ai un peu de recul, quelques années de recul, tu vois, je vois des trucs où moi je disais, ouais, mais attends, ça semble compliqué, c'est pas ça. Puis tu vois que les gens, ils ont cette capacité, alors la vision à 5 ans. Et puis la vision à 5 ans, elle est vraiment dure à avoir. Tu vois, la vision à 100 ans, tu vois, les gens qui savaient qu'on allait avoir des drones dans les années en 1900, il y en avait. Mais c'est pas très intéressant comme vision. Ça te sert à quoi, tu vois? La vision à un an, il y a pas mal aussi. Si tu suis, nous on l'a, on sait parce qu'on suit. Oui. Mais la vision à 5 ans, moi, c'est celle qui m'intéresse. Et elle est vraiment. Puis celle où tu peux ajouter quelque chose, pas juste sur la vision, mais dire voilà, je vais te donner une pièce du puzzle.
Dernière AskNipTech, t'es prêt? Elle vient de Olivier Alberto qui dit Ancroma a sorti des lunettes pour daltonien. 36 millions de touchés en Europe. Efficacité, point d'interrogation. Utilité, point d'interrogation. 150 métiers interdits en France, j'imagine, parce qu'ils sont daltoniens. Voilà. Succès, pas succès, quelles sont tes pensées?
C'est vrai que comme tout le monde, je connais pas mal de gens qui sont daltoniens, parce qu'il n'y a pas de raison de s'en cacher non plus. Alors, de temps en temps, c'est vrai qu'ils me font des remarques, genre, attends, là, dans ton graphique, ça serait sympa de mettre des couleurs un peu moins nazes, parce que moi, je vois pas la différence. Donc ça, je comprends quand je fais faux, tu vois. Mais après, je les ai jamais entendu dire, c'est dur, tu vois, ça m'empêche de faire des choses. Alors, si vraiment, toi, moi, je pense que c'est toujours le même truc. Si c'est intégré à d'autres choses, je suis certain que ça sera, toi, une feature, c'est une app. Oui. Ouais, cool. Tout seul, ça me semble plus difficile, je dois dire.
Je pense que là, tu marques un point en disant, tu peux les intégrer à des lunettes ou à des verres de lunettes. Et là, tu auras un avantage où tu diras, moi, j'ai un avantage pour les sortir. Et puis, peut-être, ça sera un angle pour toucher ces 36 millions de personnes. Ouais, moi, je travaille avec des daltoniens aussi. Et c'est vrai que la seule chose qui m'a fait rire, une fois, c'est vrai, ils m'ont dit, mais comment est-ce qu'un daltonien fait pour reconnaître le feu rouge du feu vert?
C'est la position, quoi.
T'as pas travaillé pour Google pour rien, toi. Bravo. Et c'est ça, c'est exactement ça. Voilà. Et je voulais faire, tu te souviens, j'avais offert mon keyboard Logitech Key2Go qui coûtait au moins 80 euros. Tu te souviens de ce truc?
Ouais.
Mais j'avais dit à la personne, dont je me souviens plus le nom, tu dois m'envoyer ton adresse via NipTech Podcast. Et il l'a pas fait. Donc, je remets en jeu le cadeau et je vais l'offrir à CyberKick, puisque tu nous suis depuis des années. En tout cas, un grand merci à toi. Donc, envoie ton adresse à NipTech Podcast via Twitter en DM et bien sûr, je t'enverrai ça. Alors, c'est le clavier suisse, mais il y a quand même des touches. Donc, voilà, je te l'offre parce que, tu nous suis bien.
Il y a des
bien,
touches. Ouais, et puis prépare-toi à utiliser les A-umlaut, les U-umlaut. Tu sais, l'umlaut, c'est les petits deux traits là, qu'il y a sur les lettres allemandes.
Alors là, c'est mais encore une chose que j'ai achetée. Que j'en ai acheté deux, je me suis trompé, et en fait je l'ai jamais utilisé parce que trop compliqué, et aussi le clavier ne fonctionne pas avec SwiftKey. Et moi, je suis un freak de SwiftKey. Si ça ne fonctionne pas avec SwiftKey, ça veut dire qu'à chaque fois, je dois changer le clavier quand j'utilise mon iPad. Et en fait, ça a été un no-go pour moi. Donc voilà. Mais Kojo, peut-être tu l'aimeras. Donc en tout cas, envoie et c'est cadeau pour toi.
Bon, c'est beau. Allez, dernière rubrique parce qu'on a fait Tech Startup, mais on a aussi Inspiration. Bon, toi, Inspiration, tu nous as gâtés parce que même maintenant, c'est comment on appelle ça? Un spin-off. Il y a le spin-out de NipTech, c'est NipTech Inspire, le 01. Alors, si vous ne l'avez pas écouté, allez l'écouter. Ouais, c'est vrai, je t'ai fait le retour. Moi, j'ai trouvé que l'émission allait crescendo.
Oui.
Je trouve que pour avoir fait aussi des interviews, des fois, on a envie d'expliquer, de faire la biographie. Et je me suis rendu compte que souvent, le moins intéressant d'un interview, c'était la biographie.
Oui.
De dire d'où tu viens, où tu as grandi, tout ça. En fait, je me rends compte que c'est très générique, à moins qu'il y ait des éléments hyper saillants, comme il y en a dans cette interview. Et c'est là où ça devient intéressant.
Oui.
Donc, mais tout le reste, c'est une émission hyper intéressante. Et franchement, ouais, ça, oui, ça vaut la peine. Donc toi, tu as eu plaisir.
Oui, j'ai eu plaisir, Je vais en faire, oui, je vais essayer. Le but est d'en refaire une fois par mois. Et puis c'est vrai que tu seras le prochain sur la liste, hein, parce que là, je suis un peu en mode test. Donc, je dois un peu aiguiser mon couteau et mes skills avant de viser plus haut. Bien sûr, ce n'est pas pour t'embêter. C'est déjà très haut de viser Ben. Ben m'a mis la pression en disant qu'on devait... Comme ça, je me suis dit aussi, on dig deep, comme on dit en anglais. Et puis, ça intéressera nos auditeurs, parce que c'est vrai qu'ils t'écoutent depuis des années et ils ont envie de savoir un peu plus sur toi. Donc, moi, une chose, j'ai obtenu pas mal de feedback, Prof du Web et d'autres. Merci pour votre feedback. Donnez-moi du feedback. Même, je préfère que ça soit des choses à améliorer plutôt que c'est bien. C'est bien, ça m'aide pas, mais améliorer ça, c'est mieux. Ce que j'ai vu, c'est que je dois être plus précis dans mes questions, bien sûr, et aussi, je dois plus donner une raison pourquoi j'invite cette personne. Je pense que la reason why est toujours importante pour savoir, ah, ben, la personne elle est dans ce domaine-là, dans ce domaine-là. En tout cas, moi, j'aime bien les faire. Techniquement, je dois un peu encore travailler sur comment je fais via Skype, via Google Hangout et tout ça, parce que s'il n'y a pas des gens techniques, c'est un peu plus compliqué. Donc, il faut vraiment que je trouve...
Comment je ferais, là maintenant que tu le dis,
oui,
moi je leur dirais, on ne le fait pas par Skype. Tu dis, mettez-vous dans un endroit calme, avec vos écouteurs d'iPhone ou de téléphone, oui, des bons écouteurs, et puis tu les appelles.
Ouais,
tu les appelles, tu le fais au bon vieux téléphone. La qualité, les gens savent utiliser. La qualité, franchement, à moins d'être au fin fond du Luberon, elle est excellente maintenant.
Ouais, mais tu les appelles comment? Parce que tu dois enregistrer ça via ton iPhone. Ah, tu dis, je les appelle via Skype ou alors FaceTime. Mais est-ce que tu as FaceTime sur ton audio aussi? Tu peux l'utiliser sur ton portable?
Non, mais même, tu vois, parce que FaceTime, pour les gens qui n'ont pas Apple, c'est compliqué. Un truc que tu utilises pour tout le monde. Il te faut le truc que tu peux suivre.
Il y a plus de gens
qui
utilisent FaceTime qui utilisent Skype. Hein.
Non, mais pas Skype. Toi, tu les appelles sur leur téléphone.
Ah.
Sur leur 0X, tu vois. Parce que ça, tu sais utiliser. Tu dis, tu te poses tranquille, tu te mets dans un truc où tu as une bonne réception, un bon casque, un endroit tranquille.
Vrai.
Et puis, tu papotes au téléphone.
Oui.
Voilà.
Et il faut
avec
dire
un casque. Pas à l'oreille.
Ouais, et tu dois dire, ouais, le casque, c'est un casque Apple, parce qu'on sait que le micro du casque Apple est un des meilleurs micros, hein. Il faut le dire. Même pour enregistrer du son et de l'audio, je l'avais déjà testé, et c'est vrai,
oui,
c'est un bon son. C'est une bonne chose, je vais y faire. Ça, c'est une bonne chose. Et je dois juste trouver le logiciel pour vraiment bien enregistrer via Skype. Donc ça, c'est un logiciel. Je vais demander à Patrick Béja, parce que je pense que lui, il le fait mieux que moi.
Non, mais c'est pour ça que c'est ce que je te disais avant. Tu utilises GoToMeeting, parce qu'eux, ils appellent sur ton GoToMeeting. Tu as des numéros dans toute l'Europe qui,
oui,
sont gratuits de toute manière. Et tu as réglé le truc. Tu appuies sur le bouton rouge en haut, ça enregistre, c'est bon.
Voilà.
C'est eux qui t'appellent, mais c'est gratuit pour eux, donc c'est cool.
Et je vais tester aussi ça, parce que je vais tester cette manière de faire, et surtout la qualité du son, parce que j'ai peine à croire que la qualité du son GoToMeeting est bonne, même si je suis un fan. Hein. GoToMeeting, Meetings Made Simple, je l'utilise. Grâce à ça, j'économise énormément d'argent, sachez-le, et ce n'est pas des sponsors. C'est au lieu de faire venir toutes mes équipes, des fois, ben, on le fait via GoToMeeting, avec de la vidéo et tout soin. Et ça économise du temps et de l'argent pour tout le monde. Même si ce n'est pas quand même la même chose. Mais c'est deux bons points, merci beaucoup. Une deuxième chose, c'est que je vous avais parlé que je faisais mon semi-Ironman, vous vous souvenez? Et j'ai dû revoir mes objectifs, parce que je pense que j'avais des objectifs trop hauts par rapport à ce que je pouvais faire. Donc j'ai revu mes objectifs en deux éléments. C'est-à-dire, je vais toujours faire, l'objectif est toujours de faire un Ironman quand j'aurai 40 ans, c'est-à-dire l'année prochaine en 2018. Mais là, je vais faire deux triathlons. Donc le triathlon de Nyon, qui est plus une découverte, et le triathlon de Lausanne. Je vais les faire les deux.
Il est génial le triathlon de Lyon pour l'avoir fait. C'était un de mes préférés.
Okay.
Très cool. Et l'autre, lequel?
Et celui de Lausanne qui est deux semaines derrière, parce que voilà, pour faire un peu un truc un peu plus olympique, on va dire, une distance. Je vais faire d'abord une distance courte et puis après une distance plus longue. Et puis voilà, après je continuerai à m'entraîner. Et le but étant de faire un semi au mois au début de la saison, donc au mois d'avril, et de faire l'Ironman en septembre l'année prochaine.
Tu sais ce que j'ai pas aimé à Lausanne, parce que je l'ai aussi fait, c'est que Lausanne ça monte. Hein. Ceux qui connaissent Lausanne, ils savent, c'est en pente, c'est une grande pente. En fait, tu as les pieds dans l'eau et après ça commence à monter. Voilà. Et ça n'arrête plus jusqu'à l'Himalaya.
C'est bon, ça.
Mais le truc, alors tu te dis, bon, à la cour, voilà, à la natation, évidemment, tu t'en fous. Mais après, tu fais ton vélo et la montée, tu t'en fous parce que c'est dur, mais la vie est belle. Et puis après, tu fais la descente. Moi, tu sais, déjà en descente, j'allais à fond, je me disais, oh là là, j'ai peur parce que je vais à fond. Puis tu as des mecs qui te passent, mais tellement proche, tellement vite. j'ai pas aimé. Tu sais, il y a des moments où tu dis, T'as trop de couches, tu dis. Franchement, c'était pas mon préféré pour ça. Je trouve que des fois, il faut séparer les amateurs des compétiteurs. Là, c'était, en tout cas, quand je l'ai fait, c'était pas très bien séparé. Mais je me réjouis d'avoir ton feedback, ça va être drôle. Oui.
Ben ouais. Alors, voyez, c'est reculer pour mieux sauter, mais c'est vrai que des fois, on s'enthousiasme, mais l'enthousiasme nous permet de faire ce que j'adore dire. Et j'ai un gros poster dans mon bureau qui dit juste ça, qui dit take action. Et maintenant, sur chaque chose que je dis, je take action, et en plus je le dis. J'essaye vraiment de le faire, et pour moi c'est vraiment important. Quand on fait quelque chose, take action, c'est la deuxième chose. Ou quand on dit quelque chose, take action, c'est la deuxième chose. Et troisième, bien sûr, le dire à tous vos amis, comme vous. Comme ça, si je le fais pas, vous allez un jour me le faire savoir. Et comme ça, j'ai la, comme on appelle ça en anglais, la peer pressure, et je suis obligé de le faire. Voilà. Donc je vous explique où j'en suis sportivement. J'ai dû reculer pour mieux sauter, mais ce n'est que partie remise. Voilà.
Ouais, bon, mais attends, un Ironman, c'est pas un truc que tu fais en une saison. Moi, je trouve bien. Et puis, comme toujours, l'important, c'est que tu fasses des étapes. Et puis, je trouve génial. Je trouve que c'est tout ce qu'on dit tout le temps. Bravo, merci de le mettre en pratique.
Oui, on dit toujours, c'est pas la fin, mais c'est le parcours qui est génial. Allez, des petits podcasts que je voulais vous parler. Alors, un nouveau podcast. Vous savez qu'on découvre la majorité des podcasts dans d'autres podcasts. Donc, moi, ils sont surtout anglophones.
Oui.
Y a Kevin et Ryan. Donc, vous connaissez comment il s'appelle, j'ai son nom de famille qui m'échappe. C'est quoi le plus connu des Kevin?
Kevin Rose.
Kevin Rose, exactement. Tu vois, j'ai un blanc comme ça.
Et puis, c'est pas Ryan Holiday, c'est Ryan l'autre de Treehouse.
Oui,
non?
De Treehouse. Ils ont fait un nouveau podcast qui s'appelle The Kevin and Ryan Show, où ils parlent de health hacks, de focus. Ils sont bien, et franchement, ce Ryan de Treehouse, c'est vraiment une personne bien. J'aime bien sa voix, sa manière de faire, sa manière de penser. Peut-être qu'ils sont un peu dans le même mindset que moi. Ils ont 40 balais, et puis ils se posent des questions, et j'aime bien. Donc, bravo à Kevin de faire vraiment plein de choses différentes. Je dois dire respect à lui. Et j'aime bien ce nouveau podcast. Donc, allez le découvrir. Il y a 2 épisodes. Donc, voilà. Et gars que j'ai vraiment découvert, que j'ai adoré sur le Tim Ferriss Show. Vous savez, j'en parle assez souvent. C'est David Blaine. Alors, David Blaine, c'est un des plus grands magiciens américains. C'est le mec qui passe je ne sais pas combien de jours sans manger. Il arrive à retenir sa respiration plus que personne. Donc, il fait de la magie, mais la magie, pas seulement des tours de cartes. Hein, vraiment des trucs où il se met en danger lui-même. Et il explique sa vie, et il explique son mindset, franchement afro-américain en tout cas, je crois. J'ai vu la photo, vraiment une vie assez incroyable. Donc vraiment une personne, c'est assez hallucinant de l'entendre, comme il est humble et comme il fait les choses. Donc je vous invite vraiment à aller écouter David Blaine. Voilà.
Ok, ah ouais, puis il doit être assez grand, parce que je sais pas si c'est Tim Ferriss qui est petit, mais en tout cas, il est beaucoup plus grand et beaucoup plus épais. Oui. Donc ça a l'air d'être un beau bébé. Ouais.
Oui, c'est un beau bébé. Et la côte, pour finir, tu es prêt?
Ah oui, vas-y.
Eh bien, devine, elle vient de David Blaine. J'aimais bien cette côte. Et en plus, elle a été retweetée maintes et maintes fois. Ça veut dire qu'elle a parlé aux gens. Ça me fait toujours plaisir. Elle disait la chose suivante. I never look at anything really as a success. I always look at it as work in progress. David Blaine.
Donc, je ne regarde jamais rien comme un succès. Je regarde tout comme un work in progress. Donc, une œuvre en création.
Ouais. Oui.
Moi, j'aime bien. Je trouve que c'est vrai dans les deux sens. Avant, on parlait de... des fois, tu dois revoir tes objectifs. Et puis, c'est évident. Tu peux dire, c'est un échec. Je n'ai pas fait ce que je voulais. Donc, voilà, c'est moins bien. Mais c'est pas une bonne façon de penser. Je pense que l'inverse est vrai aussi, de te dire king of the world, c'est pas plus intéressant. Donc j'aime bien. Moi je trouve que ça me parle. C'est une bonne façon de regarder de l'autre angle. Oui. C'est cool. Puis lui, il succède.
Oui.
Donc il peut en parler, toi.
Ouais. Une des choses qui venait aussi à son... pourquoi il le disait, c'est que c'est comment il fait face à l'échec. Parce qu'il dit, quand tu es magicien, tu t'essayes des milliers de fois jusqu'à ce que tu arrives. Et c'est, comment tu peux faire face à l'échec, c'est fait le dire, c'est rien qui est un succès. C'est toujours, je suis en train de travailler. Donc ça veut dire, même si tu as un insuccès, c'est toujours work in progress. Et je trouve que c'est pas mal de se dire ça. Finalement, c'est jamais fini. Et puis, on n'y arrive jamais. Et puis, c'est le travail, c'est le fait de tester... obstacle is the way, comme disait l'ami Ryan. J'adore toujours cette phrase, obstacle is the way. Voilà.
Ouais, mais c'est marrant. Mais tu sais, moi, c'est vraiment... Je pense que l'âge, tout n'est pas chouette d'en vieillir, même si moi, je trouve que c'est plutôt chouette. Mais oui. Un des trucs que je fais mieux, c'est ça. C'est de... Toi, typiquement, l'âge... c'est un monde plus politique dans lequel je vis maintenant que technique. Puis il y a beaucoup de frustrations liées aux êtres humains.
Oui.
Mais ce n'est plus vraiment des frustrations, c'est juste des processus. Puis quand tu le vois comme ça, il n'y a pas de problème. Puis tu n'en veux pas aux gens. Tu n'es pas en train d'être fâché contre quelqu'un. Tu dis, ben voilà, il ne répond pas, il fait faux, il te bloque et tout ça. Ben, ça fait, il va falloir trouver un moyen. Puis ça devient intéressant, toi. Ça devient challenging. Alors ça ne marche pas tout le temps. Des fois, tu es quand même fâché. Mais c'est vrai que c'est exactement toujours la même idée, hein, qu'on recycle sous tous les angles, mais qui est tellement riche, tellement utile que, ouais, elle vaut vraiment la peine. Donc bravo, merci à David Blaine, que je ne connaissais pas. Donc en plus, tu nous fais découvrir du monde.
Oui.
Bon, bah c'est beau, donc on est arrivé au bout de l'émission. Je me rends compte que j'ai pas vraiment envie que l'émission s'arrête. En fait. Mais bon, allez, on a dit, on a un contrat. Mais moi, je trouve important, un contrat moral, c'est de dire une heure. Parce qu'après, si l'émission a tout le temps une heure, on sait qu'on peut écouter tout. Mais si on fait une fois une heure et demie, une fois 50 minutes, on sait jamais. Donc on dit une heure, voilà. Donc ça fait que je vais devoir attendre, comme tout le monde, attendre pas 2 semaines parce que je serai à Montréal dans 2 semaines. Nouveau 3 semaines avant d'avoir la nouvelle émission de NipTech. Mais j'espère, peut-être tu trouveras quelqu'un au milieu, peut-être pour faire un NipTech Inspire. Comme ça, on prend l'habitude pour attendre qu'on a un NipTech Inspire. En tout cas, si vous voulez nous contacter, c'est facile. @sygde@bcurdy sur Twitter. Vous pouvez nous trouver également, on va dire, le truc le plus sexy des podcasts sur LinkedIn. Ou voilà, simplement niptech.com pour avoir tous les liens de l'émission. Et puis nous, on se réjouit de se retrouver, allez, ben, soit à Paris la semaine prochaine ou sur les émissions. Allez, passez de très très bonnes semaines. Ciao.
Ciao, ciao.